L'amorce. L'amorce avec Jean-Simon Buis.
5 à pile, bienvenue dans l'amorce. Déjà jeudi, on est le 5 décembre 2019. Que ça passe vite. À peine 20 jours avant Noël. Et vous allez vous réveiller avec quelques flocons, possiblement, dépendamment des secteurs. Petite neige intermittente pour démarrer la journée. C'est beau, c'est magique, c'est scintillant, ça fit avec la période de l'année. Hein? C'est le plus beau moment de l'hiver, à mon avis, parce que rendu en janvier, on est déjà tanné. Côté température, c'est assez confortable. Ça l'est plus, en tout cas, qu'hier. Là, on se sentait des moins 18, moins 19 dans les derniers jours, là, en termes de avec le refroidissement éolien. Mais c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux aujourd'hui. Maximum de moins 1 qui est prévu. Comme je vous le disais, quelques flocons présentement. Demain, vendredi, retour du soleil. Généralement nuageux avec des percées de soleil. Maximum de moins 4. Samedi, alternance de soleil et de nuages avec moins 6. Dimanche, plein soleil. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Maximum de moins 5. Et présentement, à Québec, c'est moins 5 et c'est très, très confortable à l'extérieur. Je commence avec un fait divers. Vous mentionnez qu'à Val-Bélair, hier soir, il y a eu une intervention des pompiers de Québec concernant un incendie criminel. C'est au coin de Pions et Avenue Industrielle, pour vous situer un peu, là. Un appel qui est entré vers 19h15 parce qu'il y avait des flammes à l'arrière d'une résidence au 1739 Avenue Industrielle. C'était un cabanon, en fait, qui était en flammes. Il est situé à côté d'un garage double détaché de la maison. Et le cabanon est une perte totale. Il y a également eu des dommages au garage attenant, bien entendu, là, à cause de la propagation des flammes. Sauf qu'on a été capable, du côté des pompiers de Québec, de rabattre ça assez rapidement. Mais d'après des témoins qui étaient sur place, il y a des jeunes qui auraient été vus en train de quitter la cour arrière, ce qui fait en sorte qu'on a amené les chiens pisteurs, qu'il y a une enquête qui est en cours et qu'on traite l'incendie comme un incendie volontaire, un incendie criminel. Sinon, dans l'actualité, ben, je pense que la grosse nouvelle qui vole la vedette, et d'ailleurs, c'est la une du Journal de Québec, mais c'est un peu la une partout dans le monde, et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Un incident diplomatique qui implique notre premier ministre récemment réélu, Justin Trudeau, en lien avec ses relations avec Donald Trump. On sait que Justin Trudeau est peut-être connu pour certaines gaffes diplomatiques dans les dernières années. On n'a qu'à penser à son célèbre, tristement célèbre voyage en Inde. Encore pendant la campagne électorale, tout ce qui a été controverse autour du blackface, les épisodes où est-ce qu'il s'était maquillé le visage en noir dans diverses circonstances. Eh bien, dans les derniers jours, il y avait une rencontre des pays de l'OTAN, du côté de Londres au Royaume-Uni, où est-ce qu'on discutait des différentes stratégies en lien avec cet organisme militaire-là, avec cette alliance-là. Évidemment, bon, les grands de ce monde étaient présents, que ce soit Donald Trump, Boris Johnson pour la Grande-Bretagne, Emmanuel Macron pour la France et ainsi de suite. Et avant-hier soir, pendant une discussion qui semblait à micro fermé, c'est-à-dire que vous avez Justin Trudeau, Boris Johnson, vous avez Emmanuel Macron, ils jasent ensemble, ils ne pensent pas qu'il y a des micros d'allumés, ils ne pensent pas qu'ils sont filmés. Justin Trudeau se serait moqué de Donald Trump. Et ça a été capté, malheureusement pour lui, par une caméra de la CBC, avec juste assez de son pour qu'on l'entende. Moi, je peux pas vous le faire entendre, ce serait inaudible, là, mais on l'entend quand même quand il y a des sous-titres. On est capable de saisir ce que Justin Trudeau dit. Et grosso modo, il parle du président Donald Trump en le mettant en lien avec le retard d'Emmanuel Macron à la rencontre en disant « Ben, c'est sa faute, c'est à cause de Trump. Il prend toujours 40 minutes pour une conférence de presse. » Effectivement, le président Trump venait de faire une très longue conférence de presse en prenant des tonnes de questions de la part des journalistes étrangers. Bon, alors, Justin Trudeau a fait référence à ça, entraînant un peu des rires de la part de ses confrères et consœurs. Et là, il continue à parler de Donald Trump. Puis on entend aussi dans l'extrait, j'ai vu la mâchoire des gens de son équipe tomber, là, il fait le signe, là, comme la bouche qui ouvre avec le menton qui descend, là, pour démontrer qu'à un moment donné, il a dit quelque chose de déplorable ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, ben, Donald Trump a appris ça et ça a fait le tour des médias partout à travers le monde, là, que ce soit le Figaro, les médias américains. Tout le monde parle de cet incident-là. Vous allez me dire que c'est pas extrêmement grave, mais c'est une bourde pas nécessairement utile et pas nécessairement positive pour les relations entre le Canada et les États-Unis, bien entendu. Je vous fais d'abord écouter Donald Trump qui a réagi à cet incident.
Well, he's too fast. And honestly, with Trudeau, he's a nice guy. I find him to be a very nice guy. But, you know, the truth is that I called him out on the fact that he's not paying 2%. And I guess he's not very happy about it.
Alors, M. Trump qui dit Justin Trudeau, c'est un visage à deux faces, mais c'est un très, très bon gars. C'est un très bon gars. Je trouve que c'est un bon gars. Sauf que je l'ai interpellé la veille concernant le fait qu'il consacrait pas 2% de son produit intérieur brut à l'OTAN, au budget de l'OTAN, au budget militaire. Donc, c'est probablement pour ça qu'il était pas content. Alors, c'est assez cinglant de la part de Donald Trump. Et ce qui est assez cinglant aussi, c'est que quand vous regardez sur Twitter présentement ce qui est trending, là, ce qui est à la mode comme mot-clic, c'est Two-Face Trudeau. Et c'est pas juste au Canada, c'est un peu partout à travers le monde. C'est pas des excellentes nouvelles pour son image publique. Justin Trudeau, lui, a réagi. Il a essayé un peu de minimiser l'incident en disant que c'était pas si grave que ça et que de toute façon, ben, ça ne voulait pas dire que les relations étaient mauvaises entre lui et Donald Trump.
On sait très bien que les relations entre le Canada et les États-Unis sont beaucoup plus profondes que tout simplement les relations entre le premier ministre et le président. Mais vous savez aussi que j'ai une relation très constructive et positive même avec le président.
Et présentement, il y a des négociations qui sont importantes entre le Canada et les États-Unis, notamment concernant la ratification d'un nouvel accord de libre-échange nord-américain, de la nouvelle mouture de l'ALENA. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Et on n'a pas nécessairement le gros bout du bâton au Canada, donc ça fait craindre à certaines personnes que ce genre d'incident-là, ça donne pas envie à Donald Trump d'être très, très gentil. Sauf qu'on est allé questionner du côté du 98.5 un ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, qui lui, bon, évidemment, il dit que c'est un faux pas, mais il pense pas que ce soit non plus la fin du monde.
Je pense pas qu'il va y avoir de grand impact. Trump a besoin absolument que le Congrès ratifie ce nouvel accord-là, le nouvel ALENA, parce que il n'y a pas eu beaucoup de succès là, dans ces négociations internationales, puis à mesure que l'élection se rapproche, il y a besoin d'avoir des succès.
On revient plus près de chez nous, suite à cette incursion dans la diplomatie internationale. C'est la saga du tramway qui continue à faire jaser dans la ville de Québec. Hier, c'était l'étude du budget pour le réseau structurant de transport en commun. Et cette semaine, c'est un peu l'opposition qui tente de voler la vedette avec son absence ou sa présence à cette séance-là. Finalement, ils ont boudé la séance en raison de l'absence du directeur du projet, Daniel Genet, qui n'était pas là pour cette séance-là. Et pour Jean-François Gosselin, c'était inacceptable que Daniel Genet soit pas présent pour le budget le plus important de l'histoire de la ville de Québec. Alors, je vais vous faire entendre un peu le nouveau chapitre de cette prise de bec entre l'opposition officielle et l'administration La Bombe. D'abord, voici Jean-François Gosselin au début de la séance qui essaie de se faire justifier l'absence de Daniel Genet. Vous allez entendre que dès le départ, le président a déjà certaines réticences à laisser parler Jean-François Gosselin et l'avertit quant au décorum.
Vous comprenez, M. Gosselin, je lis les journaux, j'écoute les médias comme tous et toutes. Et dans ce qui se passera à partir de maintenant, je vous demande d'être digne de vos fonctions, tout le monde, et de respecter le décorum de la salle. Peu importe les décisions politiques que vous prendrez, je vous demande de le faire bien et correctement et avec dignité, s'il vous plaît. Alors, M. Gosselin, vous m'avez demandé la parole, je vous écoute.
Oui, merci, M. le Président. On se demande pourquoi le responsable, M. Daniel Genet, n'est pas présent.
M. Montier ou M. Lormand? Allez-y, M. Lormand.
M. le Président, il y a une feuille qui a été distribuée il y a 10 jours sur les séances du comité plénier. Et il y a 10 jours, on a annoncé qu'à ce moment-ci, le 5 décembre, prévu à 13h30, qui était décalé, le réseau de structure de transport en commun serait le sujet de discussion et que ce serait M. Montier qui serait ici.
Parfait. Donc, ça s'écrit sur la feuille. Mais à la question de M. Gosselin, ensuite de ça, est-ce que vous avez un élément de réponse?
Non, ou, il y a 10 jours, on a dit que c'est M. Montier. Il n'y a rien d'autre à rajouter.
Pour que M. Genet soit là, c'est lui le responsable de la plus grosse fiche de l'histoire de la ville de Québec. C'est presque 1,9 milliard de dollars.
Vous avez bien compris l'avis de Jean-François Gosselin là-dessus. Régis Labeaume a été interpellé par la suite sur l'absence de Daniel Genet. Voici ce qu'il avait à répondre.
Mais j'étais là, j'étais en réunion avec M. Genet. On travaille en comité actuellement.
Il n'était pas possible de le sortir.
Non, c'est parce qu'on fait ça de façon donnée. Là, on est dans le budget. Le budget, le directeur général est responsable du budget. On n'amènera pas Dan Genet dans une affaire de budget. On va amener Dan Genet et tout le bureau dans une affaire organisée. L'affaire organisée, c'est basé là-dessus, entre autres. Alors, on va être organisé. Parce que là, depuis le début, tout ce que j'entends, c'est l'obsession de tuer le projet, puis il ne s'intéresse plus au fonctionnement de la ville, aux finances de la ville. Ils sont obsédés par le projet. Je disais, maintenant, vous allez avoir toutes les informations. Soyez pas enfantins, soyez rigoureux. Puis je trouve ça un petit peu paresseux de la façon dont ils travaillent, honnêtement. Depuis 10 jours, vers le gars de la rigueur, il n'y en a pas. Ça les intéresse pas. Ils veulent juste parler du tramway. Maintenant, il y a une ville qui gère, là, puis il y a un budget de fonctionnement de 1,5 milliard. Il faut tout de même qu'on s'en occupe.
C'est pas faux qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du tramway dans les dernières semaines et qu'on met peut-être de côté les autres enjeux municipaux. Et en terminant, là, Jean-François Gosselin avait des mots à dire concernant l'achalandage. Lui, il croit pas que l'achalandage va augmenter suffisamment pour justifier un budget aussi important dans le projet structurant de transport en commun.
Pour le projet d'SRB, on parlait d'une augmentation, on référait à une année de base 2011, jusqu'en 2041, on parlait d'une augmentation de 14 570 déplacements. Et pour le tramway, on parle de 14 900 déplacements, toujours en heure de pointe du matin. C'est donc une différence d'environ 400 déplacements pour un projet qui coûte 2 milliards de dollars de plus.
Alors voilà, c'est où est-ce qu'on en est dans la saga du tramway. Évidemment, tout semble procéder parce que de toute façon, ben, l'opposition peut parler très fort, mais ils sont quand même minoritaires à l'Hôtel de Ville. Alors pour l'instant, ben, c'est beaucoup de paroles, mais effectivement, c'est peu de conséquences. Autre saga pour laquelle ça fait plusieurs années qu'on se questionne au Québec, ben, c'est la gestion des attaques de chiens dangereuses. Le point tournant, on pourrait dire que c'est en 2016, quand Mme Vadnais, Christiane Vadnais, avait été mordue par un chien et qu'elle était décédée, et ça avait un peu choqué le Québec au complet, et on s'était mis à se questionner vraiment sur la manière dont on pouvait faire en sorte que les chiens dangereux soient gérés, et que quand il y a des conséquences, des blessures graves, ou encore qu'un chien tue quelqu'un, bien entendu, on mette à bas ce chien-là. Et là, Québec avait voulu légiférer. Évidemment, ça avait été les libéraux au pouvoir pendant un bon bout de temps, mais on pensait qu'on mettrait des normes très claires, très sévères par rapport aux chiens dangereux à l'échelle du provincial. Mais finalement, il y a un recul hier, partiel, de la part du gouvernement du Québec par rapport à cette réglementation-là autour des chiens dangereux. Pas qu'on va rien faire, mais on va laisser beaucoup le champ libre aux municipalités pour gérer comme bon leur semble les conséquences en lien avec les propriétaires et les chiens dangereux. Bon, d'abord, je vous dis un peu ce qu'il va y avoir comme article à ce nouveau règlement-là. D'abord, on dit qu'un enfant âgé de 11 ans pourra être laissé seul avec un chien dangereux, mais des enfants de 10 ans et moins, eux, vont devoir toujours être supervisés par une personne âgée de 18 ans et plus. On dit que si un chien est classé potentiellement dangereux par une municipalité, il va devoir porter une muselière et être tenu en laisse, une laisse qui n'excède pas 1,25 mètres, et que sur un terrain privé, le propriétaire d'un chien portant l'étiquette dangereux devra avoir un dispositif qui l'empêche de sortir des limites des clôtures. Sauf que pour ce qui est des conséquences, euthanasie ou autre en lien avec un chien dangereux, il pourrait ne pas y en avoir, tout dépendant des décisions des municipalités. Ça va vraiment être aux municipalités de décider si le chien doit être mis à bas suite à un incident ou à un autre. Donc, on sent vraiment qu'on met ça dans la cour des municipalités et que la province de Québec se dégage un peu de certaines responsabilités en lien avec ça. Donc, d'abord, je vais vous faire écouter Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, par rapport à cette décision.
C'est les municipalités qui auront à appliquer cette réglementation-là. On leur donne tous les outils pour renforcer leur capacité à encadrer les chiens. Évidemment, il y a le gros bon sens, il y a la situation objective qui va se présenter à elles, mais dans un cas où il y aurait une blessure grave infligée à un enfant, j'ai la difficulté à voir comment une municipalité pourrait ne rien faire.
Alors, vous comprenez que oui, en tout fait pratique, lorsqu'il y aura des événements graves, il y aura probablement des municipalités qui vont sévir en conséquence envers les chiens. Sauf que tout ce qui était question de d'interdiction d'une race de chiens, pitbull ou autre, semble que ce soit mis de côté par le gouvernement du Québec. Et ce sera aux municipalités de décider de quelle manière ils vont gérer ça au cas par cas, bien entendu. 5h13, on prend une courte pause dans l'amorce et on vous revient.
Que Québec se lève avec Myriam Segal
et Pascal Caron-Vézina.
Samedi et dimanche matin, dès 7h, au FM 93.
Pour tous vos examens de radiologie, Clinix. Un seul nom, trois localisations, La Cité, Le Ménil et à Val-Bélair.
Clinix, des experts, un groupe, une force.
Une équipe dévouée. Mylène, Geneviève, Bernard, Daniel, Valérie, Caroline, Vincent, Samy, Joanne, René, Isabelle.
Pour vos examens de radiologie, Clinix, près de chez vous. Pour vous.
Parce que votre santé nous tient à cœur.
653-9933.
Cliniximagerie.com.
Les gens de l'atelier m'ont dit, on aimerait ça que tu parles de notre nouveau menu, on en est très fiers. Puis là, j'ai ça sous la main et je les comprends d'être fiers. Gravlax de truite au gin atelier, tartelette au canard confit, fettuccine au lapin braisé, le fameux contre-filet de bœuf. Si vous aimez les tartares, ben l'atelier, c'est le maître en la matière avec ses tartares de thon, de bœuf, de saumon, de bison. Et dans la portion Aujourd'hui on triche, les rondelles d'oignon à la bière et le fondant de bœuf au cheddar. Commencez à avoir faim? Allez essayer le nouveau menu du bistrot L'Atelier sur Grande Allée.
En ce froid mois de décembre, donnez bonheur et chaleur. Jusqu'au 5 janvier, rapportez votre manteau d'hiver légèrement usé, peu importe la marque, à votre boutique Chlorophylle. En échange de votre geste du cœur, vous obtiendrez 75 $ pour l'achat d'un nouveau manteau. Chlorophylle s'engage à remettre tous les manteaux récoltés à des gens qui en ont besoin. Parce que nous pensons fermement qu'avoir froid ne devrait pas être une option pour personne. Des conditions s'appliquent, plus de détails en magasin. Une initiative de vos boutiques Chlorophylle et du FM 93 au profit de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
À Place Sainte-Foy, nous savons que votre temps est précieux, spécialement aux fêtes. Nous vous offrons donc un service de voiturier pour mieux profiter de votre magasinage à Place Sainte-Foy. Après 3 utilisations, obtenez un essai routier gratuit de 2 jours offert par Infinity Québec. Détails à placesaintefoy.com.
Saviez-vous que la majorité des clients en deuxième et troisième chance au crédit n'ont pas la possibilité de choisir leur véhicule ou d'en connaître le prix réel? Chez Groupe Saillant au crédit, vous avez accès à l'inventaire de tous les véhicules neufs et d'occasion des 4 concessions du Groupe Saillant. Lorry Mazda, Sainte-Foy Toyota, Option Subaru et Sainte-Foy Hyundai. Des véhicules d'occasion inspectés, réparés, reconditionnés, certifiés et surtout au même prix, peu importe votre dossier de crédit. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saillant au crédit.com.
Plus de cinéma, plus de plaisir avec le nouveau cinéma Le Clap dès vendredi à Place Sainte-Foy et à Loretteville.
À l'affiche en nouveauté en décembre dans les cinémas Le Clap. Playmobil, le film, Jumanji, le prochain niveau, Star Wars, l'ascension de Skywalker et Espion incognito.
Pour les détails et l'horaire complet des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez l'application mobile.
Le Clap dès vendredi à Place Sainte-Foy et à Loretteville. La passion du cinéma.
Visitez clap.ca.
La maison Fondation Maurice Tanguay Novo Climat, présentée par Mercedes-Benz de Québec, est de retour. 15 gagnants finalistes se partageront 36 000 $ en prix instantané. Le grand gagnant sera dévoilé dans Salut Bonjour Weekend à TVA. Billets chez Ameublement Tanguay, Normandin, Brunet Participant, La Tulipe ou sur maisontanguay.com. Pour 10 $ obtenez une chance et pour 20 $ 3 chances de gagner. La Fondation Maurice Tanguay pour les enfants handicapés.
Pour vos cadeaux, offrez le spectacle de Réal Bélan.
Oh, t'as-tu remarqué? La structure est bonne. Tu bois un verre de vin, t'es pas en train de boire un pont.
30 ans de carrière, 30 villes à seulement 30 piastres. Une présentation fin place. Tous les détails au realbélan.com.
Joignez-vous aux joueurs et entraîneurs des Remparts ce samedi 7 décembre au magasin Sportium de Le Bourgneuf pour le défi Bootcamp. Sur place, concours d'habileté contre les joueurs des Remparts, jeux gonflables, surprises, séances de photos et plus. C'est un rendez-vous samedi 7 décembre à 14h au magasin Sportium.
L'amorce avec Jean-Simon Buy. Lundi au vendredi, 5h, au FM 93.
5h17 dans l'amorce, on est jeudi le 5 décembre 2019. Merci de vous joindre à moi ce matin. À la météo, d'abord, je vous indique que c'est très confortable à l'extérieur, même quelques flocons pour agrémenter le paysage aux alentours. Là. C'est pas d'accumulation, c'est juste de la neige intermittente en passant. Aujourd'hui, le maximum prévu est à moins 1, donc une journée douce en perspective. Demain, vendredi, généralement nuageux avec des percées de soleil, maximum de moins 4. On demeure dans ces températures-là pour la suite. Le week-end, samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 6. Dimanche, plein soleil, la plus belle journée dans les prochains jours, maximum de moins 5. Et en ce moment, on a moins 5 degrés à Québec. On poursuit notre tour d'horizon de l'actualité. D'abord, un événement assez important au palais de justice hier. C'est une affaire qui avait fait beaucoup jaser lorsqu'il avait été arrêté. C'est un jeune homme, Yann Dugas, qui était sous le coup d'une accusation de meurtre contre un pédophile qui lui avait fait subir des sévices, qui s'appelait Mathias Breton. Il avait été retrouvé mort en octobre 2016 dans son logement de Limoilou. Bien, Yann Dugas a plaidé coupable hier à une accusation de meurtre non prémédité, finalement. Il avait 18 ans là, en octobre 2016 quand il avait poignardé son agresseur dans son appartement de la deuxième rue dans le quartier Limoilou. La victime, elle avait 73 ans et puis, bon, ça avait été démontré qu'il y avait des antécédents en matière de pédophilie. Là. C'était un pédophile qui avait déjà été condamné et Yann Dugas était une de ses victimes. Il avait raconté en thérapie avoir subi des sévices sur plusieurs mois de la part de Mathias Brunet, puis il avait décidé de se faire justice. Bon, évidemment, c'est jamais une bonne solution. Et donc, il va revenir devant le tribunal le 28 janvier prochain. Et il va y avoir une suggestion commune, probablement de la Couronne et de la Défense. Faut dire que la peine minimale pour un meurtre au deuxième degré, c'est 25 ans. Mais l'emprisonnement, la minimum à purger derrière les barreaux est de 10 ans. C'est un peu moins sévère, évidemment, qu'un meurtre au premier degré. Et on aura donc sa peine du côté de Yann Dugas le 28 janvier prochain. On a eu des chiffres du côté du vapotage chez les jeunes. Hier, c'est le CIUS de la Capitale-Nationale qui a sorti des statistiques assez préoccupantes concernant le nombre de jeunes du secondaire qui vapotent. présentement dans la région et ils sont beaucoup plus nombreux qu'il y a 3 ans. Vous l'avez peut-être remarqué dans les événements publics. Moi, le moment où est-ce que j'ai fait le saut là, personnellement dans la dernière année, c'est au Festival d'été de Québec, alors que j'ai remarqué vraiment une grande quantité de jeunes qui vapotaient autour de moi là, des cigarettes électroniques avec différentes odeurs, parce que vous savez que ça vient avec des fragrances, soit il y a vanille, cerise. Ça sentait pratiquement plus la cerise puis la vanille que la marijuana, ce qui est pas peu dire au Festival d'été de Québec dans certains spectacles. Ben, ça confirme un peu les observations empirique qu'on peut faire dans les derniers mois. Les jeunes sur le territoire de la région de Québec seraient 4 fois plus nombreux à vapoter à tous les jours qu'il y a 3 ans. Et c'est plus de 20 000 élèves dans 32 écoles secondaires publiques et privées qui ont été sondées. Donc, c'est un sondage de grande envergure quand même. Et ce sont les régions de Portneuf et Charlevoix qui se distinguent particulièrement par rapport à leur consommation de cigarettes électroniques chez les jeunes adolescents. Et puis, on dit aussi que ce sont les jeunes garçons qui vapotent davantage que les jeunes femmes. Et quand on a sondé les jeunes par rapport aux risques qu'ils entrevoyaient par rapport au vapotage, la plupart pensent qu'il n'y a absolument pas de risque pour la santé ou presque pas de risque. Ce qui fait en sorte que quand on a fait la conférence de presse hier du côté du CIUSSS, ben, il y a des médecins qui ont dit, ben là, faudrait peut-être essayer d'informer les jeunes davantage sur la dangerosité du produit, même si on a encore peu d'informations sur les effets réels de la consommation à long terme de la cigarette électronique, parce que c'est un produit qui est récent. Il faudrait faire davantage de sensibilisation et éliminer peut-être tout ce qui est saveur attrayante. Là. Vous avez, comme je vous l'ai dit, là, des cartouches à la cerise ou à la vanille. C'est sûr que c'est très attirant pour les jeunes. Alors, c'est sûr qu'il y a du travail à faire présentement, parce qu'au départ, le vapotage, c'était pour arrêter les gens qui fument depuis longtemps de fumer. Et là, présentement, ça devient une porte d'entrée pour les jeunes vers peut-être la cigarette éventuellement. Donc, c'est pas du tout la vocation qu'on souhaitait pour les cigarettes électroniques. La une du soleil ce matin est un peu choquante. Et puis, je vais essayer de résumer un peu ce qu'il y a dedans, parce que c'est une affaire de possible profilage racial à Québec. Je dis bien possible parce que c'est nié par la police de Québec, là. Mais l'histoire est quand même surprenante. En tout cas, selon la version de la victime présumée de profilage, là. Il s'appelle Axel Mbongo et c'est un entrepreneur de la ville de Québec. Il a une compagnie de conciergerie. En fait, ces concierges s'occupent beaucoup des commerces dans le quartier Saint-Roch et aussi ailleurs à Québec, même sur la rive sud. Ces concierges se déplacent entre 23h et 7h du matin pour aller faire le ménage et lui-même, parfois, prête main forte à ses équipes pour aller faire le ménage ou encore, ben, il passe son temps à aller superviser un peu ce que ses équipes font. Et lui, il dit que ça fait une dizaine de fois qu'il se fait interpeller par la police de Québec pour des vérifications de routine, des vérifications d'identité, alors qu'il marche tout bonnement dans la rue, notamment dans le quartier Saint-Roch. Il dit, par exemple, qu'un soir de la mi-novembre, donc ça, c'est tout récent, il était sur la rue Saint-Joseph en direction du café Vanout pour son travail. Et là, il y a une voiture de la police de Québec qui s'est arrêtée près de lui et qui lui a demandé ses papiers d'identité. En passant, Axel Mbongo, c'est un gars de 28 ans, c'est un ancien athlète de l'équipe d'athlétisme du Rouge et Or. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment, bon, il est éduqué, a un travail, une entreprise, mais il est de race noire. Donc, il fait un lien direct entre la couleur de sa peau et le fait d'être interpellé par la police à plusieurs répétitions. Mais lui dit depuis le printemps, une dizaine d'interpellations par la police de Québec dans le quartier Saint-Roch. Et puis, il dit, bon, une ou deux fois, à la limite, j'aurais pu comprendre, c'est la nuit, on est dans le quartier Saint-Roch, ça se peut que les policiers fassent des vérifications, puis qu'ils s'inquiètent qu'il y a des individus louches ou qu'encore qu'ils enquêtent sur des événements qui se sont produits. Sauf qu'il dit, là, 10 fois, à un moment donné, ça devient vraiment plate. Premièrement, il dit, je pense pas que ça serait arrêté le cas si j'avais été blanc. Ce qu'il dit, je vous le cite, il dit, je pense que c'est du profilage racial, ça peut pas être autre chose que la couleur de ma peau. Et là, ben, lui, il est un petit peu tanné au point où la dernière fois, il s'est fait interpellé en mi-novembre, celle que je vous racontais tout à l'heure. Il a dit à la police, prenez donc ma photo, affichez-la en grand dans votre bureau chef et foutez-moi la paix. On comprend qu'il est un petit peu tanné, surtout que visiblement le gars a rien à se reprocher. Du côté du soleil, on est allé questionner la police de Québec. Et ils ont pris ça quand même au sérieux parce que c'est pas un relationniste qui répond aux journalistes, c'est carrément le chef du service de police de la ville de Québec qui répond, monsieur Robert Pigeon, et lui dit d'abord, ben on va croire monsieur Mbongo sur parole qu'il a été interpellé une dizaine de fois. mais il dit, nous, on n'a pas de statistiques, donc on regarde pas le nombre de fois qu'on interpelle tel ou individu sur la rue. Et il dit, il n'y a pas de contrôle d'identité avec systématiquement des traces dans les banques de données, donc c'est difficile de corroborer la version de M. Mbongo. Il dit, par contre, il dit, lorsque les policiers font des interpellations, il y a toujours des soupçons raisonnables en lien avec la présence de cet individu-là. Ça se peut que les policiers soupçonnent quelque chose. Il dit, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un noir. Si ça avait été quelqu'un de race blanche, ça aurait été la même chose. Et apparemment que les policiers à la Ville de Québec suivent une formation de 8 heures. On suivit une formation de 8 heures en 2011 sur le profilage racial et social et que ce ne serait pas un problème dans la Ville de Québec. Vous savez qu'à Montréal, il y a plusieurs cas où est-ce qu'on soupçonne que des policiers interviennent à répétition auprès de certains individus en raison de la couleur de leur peau. Mais c'est un peu moins fréquent qu'à Québec, on entend parler de cas similaires. 5h25, merci d'avoir été avec moi dans l'amorce. Demain matin, 5h, c'est la dernière amorce de la semaine. Et les prochaines minutes, c'est Bouchard en parle qui commence. Ciao!
Les meilleurs moments sont disponibles maintenant sur fm93.com. Bouchard en parle commence après cette courte pause.